Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel, il est 13h30 à Paris et à Berlin.
RFI Midi, Anne Cantner.
Nous sommes en Europe durant la prochaine demi-heure et puis à midi, temps universel, ce sera votre journal, Alban Le Prince. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et vous irez en Allemagne ?
Pour rejoindre la correspondante de RFI à Berlin, où Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, rencontre en ce moment le nouveau chancelier Friedrich Merz. Nous parlerons aussi de cette distribution d'aide humanitaire qui a tourné au drame hier à Gaza. Un mort, une cinquantaine de blessés. C'était la Fondation humanitaire de Gaza, nouvelle organisation soutenue par les États-Unis et Israël qui l'organisait.
Ce sera aussi l'occasion de revenir avec l'envoyé spécial de RFI à Jakarta sur les différentes déclarations ce matin d'Emmanuel Macron, notamment, qui est en déplacement en Indonésie.
Nous vous présenterons également le nouveau patron du groupe Stellantis, présenté comme l'anti-Tavares, son prédécesseur. Et puis nous irons au Japon en pleine fête, puisqu'un nouveau Yokozuna, un champion suprême de sumo, vient d'être intronisé. Un beau bébé de plus de 190 kilos.
À tout à l'heure. Volodymyr Zelensky est donc à Berlin. Il rencontre Friedrich Merz, le chancelier d'une Allemagne beaucoup plus engagée que précédemment, aux prises de position nettement plus tranchées sur le conflit en Ukraine. Et c'est l'occasion pour le président ukrainien de faire une nouvelle proposition, Carlota Morteo. Faute d'avancer dans des discussions avec la Russie, il se dit prêt à une rencontre trilatérale, lui, Vladimir Poutine et Donald Trump.
Voilà, sans doute cherche-t-il à réaffirmer au président américain son engagement à trouver un accord pour mettre fin au combat, alors que Donald Trump s'impatiente depuis que Vladimir Poutine a rejeté la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. La proposition ukrainienne d'un sommet trilatéral entre Trump, Poutine et Zelensky a toutefois été immédiatement rejetée par le Kremlin ce matin, qui estime que toute rencontre doit être le résultat d'accords concrets entre les délégations russes et ukrainiennes. Les pourparlers à Istanbul du mois de mai n'ayant pas permis de réelles percées. Comme pour indiquer que l'inertie se trouve du côté russe, Volodymyr Zelensky a également déclaré ne pas avoir reçu le fameux mémorandum, ce document censé exposer les conditions russes pour une paix durable. L'Ukraine fait pression pour que les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à Moscou. Selon la presse américaine, Donald Trump pourrait en annoncer dans le secteur énergétique ou bancaire dans le courant de la semaine.
Le président ukrainien affirme aussi que Moscou a déployé plus de 50 000 soldats près de la région ukrainienne de Soumy, dans le nord-est.
Alors, amasser 50 000 hommes à la frontière, cela augure d'une offensive russe à venir, alerte Volodymyr Zelensky, qui confirme que 4 villages ukrainiens autour de Soumy ont déjà été pris par l'armée russe. Cette région, Moscou voulait déjà s'en emparer en 2024 pour créer une zone tampon, mais ses velléités avaient été entravées par les incursions menées par l'armée ukrainienne autour de la ville russe voisine de Koursk. Par ailleurs, l'Ukraine aurait lancé sa plus grande attaque de drones sur le territoire russe cette nuit. Près de 300 drones, la plupart abattus par la défense aérienne, déclare l'armée russe, mais certains auraient atteint leur cible, en attestent des vidéos qui montrent par exemple qu'une entreprise de fabrication de drones a été touchée au nord de Moscou, la capitale.
La guerre qui se poursuit donc sur le terrain avec une intensité inédite, vous nous le rappeliez. C'était le cas notamment ce week-end. Là, la Russie avait lancé des centaines de drones et de missiles contre l'Ukraine, mais il y a eu aussi le week-end dernier un échange de prisonniers, 1 000 000 de détenus de chaque pays. Ils ont pu retrouver leurs proches. Moscou et Kiev ont mis en scène le bonheur de ces retrouvailles. Un bonheur éphémère car le retour à la vie normale est long et difficile. Comme le raconte à Daniel Valo, l'avocate et prix Nobel de la paix Alexandra Matvichuk, directrice du Centre pour les libertés civiles en Ukraine.
I interviewed hundreds of people who survived Russian captivity and
j'ai interrogé des centaines de personnes qui ont survécu à la captivité russe et qui m'ont raconté des histoires horribles. Ils m'ont raconté comment ils ont été battus, violés, leurs doigts ont été coupés, on leur a infligé des chocs électriques dans les parties génitales. La torture fait partie de la routine quotidienne. C'est devenu une pratique institutionnalisée. Et c'est frappant quand on voit les photos et les vidéos des personnes qui reviennent. Ils sont très amaigris, ils sont épuisés. Certains ont visiblement besoin d'une aide médicale. C'est un problème énorme parce que la torture n'a pas seulement pour but de briser le corps, mais aussi de détruire la personnalité des gens. Et il est très facile de prédire que ces personnes auront besoin d'un temps d'adaptation et d'une aide psychologique qualifiée.
Au-delà des mauvais traitements et de la torture, quelles sont les conditions de détention des prisonniers de guerre ukrainiens ?
Tout d'abord, je voudrais rappeler que nous parlons de plusieurs catégories de détenus. La première est celle des prisonniers de guerre. Selon le droit international, la Russie a le droit de détenir des soldats, mais elle a l'obligation de leur assurer des conditions de détention conformes aux conventions de Genève, ce qu'elle n'a jamais fait. Nous devons aussi parler des civils qui sont détenus illégalement. Selon le droit international, la Russie n'a pas le droit de détenir des civils, mais elle l'a fait malgré tout. Elle a détenu des milliers et des milliers d'hommes, de femmes et même d'adolescents qui n'étaient pas loyaux envers le régime d'occupation. Et le problème est que la Russie ne libère que très rarement ces personnes. Lors du dernier échange, il s'agissait de prisonniers de guerre, mais pas de ces civils qui ont passé des mois et des années dans les prisons russes sans aucune accusation officielle.
Without any official charges.
Et c'est très dur pour leur famille car bien souvent, elles ne savent pas où se trouvent les détenus et même pas s'ils sont encore en vie.
Oui, et malheureusement, c'est une situation très répandue, car la Russie garde en général ses personnes au secret. Ce qui veut dire qu'elles n'ont aucun lien avec le monde extérieur et que leurs proches n'ont aucune idée de l'endroit où elles se trouvent. Personne ne sait si elles sont en vie. Lorsque la Russie détient un civil, c'est une torture, non seulement pour cette personne, mais aussi pour sa famille, car celle-ci vit entre l'espoir et le désespoir. Et c'est une vie très difficile.
And it's very hard life.
Quel est l'objectif, quelles sont les intentions de la Russie lorsqu'elle torture, lorsqu'elle maltraite ses prisonniers?
Sometimes I think that they have no goals. They just do it.
Parfois, je pense qu'il n'y a pas d'objectif. Ils le font juste parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils ne considèrent pas les détenus comme des hommes et qu'ils sont tellement habitués à la torture et aux abus sexuels que c'est devenu une partie de leur culture. Et j'ai probablement raison quand je dis que très souvent, de tels comportements n'ont pas de but. Mais s'il faut tenter de rationaliser ce comportement, je vois deux choses. D'abord, détruire complètement la santé des gens pour les empêcher d'être une menace pour l'armée russe lorsqu'ils reviennent en Ukraine. Et deuxièmement, détruire la personnalité des gens. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de le faire, mais ils y prennent probablement du plaisir.
La Russie, de son côté, accuse l'Ukraine d'avoir maltraité ses soldats. Et bien que l'ONU a précisé que ce n'était pas systématique, elle a documenté en effet plusieurs cas. Est-ce que, au sein de votre ONG, vous avez également travaillé sur les soldats russes qui sont en captivité en Ukraine?
We document all kinds of war crimes regardless of the site. We have a
Nous répertorions tous les types de crimes de guerre, quel que soit le camp. Notre base de données contient plus de 87 000 cas et je sais avec certitude que l'immense majorité des cas ont été commis par l'armée russe. C'est évident, car la Russie utilise les crimes de guerre comme méthode de guerre. Il s'agit donc d'une politique délibérée. Mais nous répertorions également les crimes commis par les Ukrainiens. La différence, c'est que dans ces cas-là, nous avons la possibilité de faire pression, de demander une enquête, d'impliquer les médias ou les organisations internationales, et la situation changera. Mais lorsque nous parlons de la Russie, il n'y a aucun moyen de pression pour l'amener à faire une enquête ou même à punir les coupables. En Ukraine, le comité international de la Croix-Rouge a pleinement accès aux prisonniers de guerre russes, tout comme les Nations Unies. Et si ces prisonniers ont des plaintes à formuler, ils peuvent le faire auprès des représentants internationaux. Les Ukrainiens détenus dans les prisons russes, qu'ils soient militaires ou civils, n'ont pas cette chance. Et personne ne les sauvera.
Alexandra Matvichuk, directrice du Centre pour les libertés civiles en Ukraine, elle est aussi avocate et prix Nobel de la paix. Elle répondait à Daniel Valo.
RFI, l'Europe à midi.
L'actualité européenne, c'est aussi cette satisfaction de Bruxelles dont nous parlons avec notre correspondant Pierre Benazet. La Commission a dévoilé ce matin les évaluations des plans dits énergie-climat de chacun des 27 pays de l'Union. Et pour la première fois, Pierre, ils correspondent aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.
Effectivement, l'Union européenne s'est fixée, on s'en rappelle, comme objectif pour 2030 de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. 90, c'est la date du premier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution et le climat. Et aujourd'hui, si les engagements de chaque État membre de l'UE se concrétisent, ils semblent en bonne voie selon la Commission, l'UE aura réduit ses émissions de 54% au moins dans 5 ans. 2030, c'est ce que les Européens s'étaient fixé comme étape majeure pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions et l'absorption du carbone dans l'atmosphère. Mais selon la commissaire Teresa Ribera, chargée de la transition, les objectifs ne doivent pas oublier la dimension sociale.
Une transformation aussi profonde de l'économie ne peut réussir que si nous prêtons attention à la dimension sociale. Et c'est un point critique pour l'avenir, non seulement au niveau des États membres, mais aussi en veillant à ce que les emplois de haute qualité, les emplois décents et le maintien des compétences soient une opportunité. C'est pourquoi le Fonds social pour le climat insiste sur le fait que nous devrions accorder une attention particulière aux groupes qui peuvent bénéficier de factures d'énergie moins élevée grâce à la rénovation de leurs maisons.
Pour la Commission européenne, c'est en partie un soulagement car la trajectoire précédente était insuffisante. Et puis, plusieurs ONG dénoncent aussi de récentes décisions ou initiatives comme par exemple la réduction des ambitions du Pacte vert.
Alors c'est vrai, le ton change du tout au tout par rapport à la dernière évaluation en 2023. Depuis cette date, il y a une accélération des efforts. 8 points de pourcentage ont été gagnés en 2 ans. Résultat, l'Europe a réduit aujourd'hui de 37% ses émissions depuis le premier rapport du GIEC en 90. Donc, pour la Commission, l'objectif de 42,5% d'énergies renouvelables, lui aussi, est en bonne voie. Il ne reste plus maintenant qu'à fixer enfin l'objectif pour la prochaine étape, 2040. La Commission aimerait 90% de réduction des émissions. Et elle espère se mettre d'accord avec les 27 d'ici l'été.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles.
RFI Midi, Anne Contner.
Notre coup d'œil à la presse européenne. Malgré les critiques, la commission justice du Parlement hongrois a adopté le texte voulu par Viktor Orban, présenté comme une loi de transparence. Ce texte prévoit des sanctions pour les organisations critiques des valeurs de la Constitution, comme la primauté du mariage, de la famille ou des sexes biologiques. Ce projet vise la presse indépendante et les ONG, écrit le quotidien Népszava. Le contrôle des financements étrangers, le fait de priver les organisations concernées d'une taxe avec effet rétroactif, tout cela est contraire à la Constitution, dit le journal hongrois. En ajoutant un commentaire, il s'agit d'une erreur politique telle que l'on peut se demander s'il s'agit d'une manœuvre politique classique ou si le gouvernement s'engage réellement sur la route de Poutine. La Vanguardia en Espagne se fait l'écho de l'inquiétude européenne concernant la grippe aviaire. Le manque de contrôle sur la maladie aux États-Unis déclenche une alerte en Europe, au point que l'Espagne, nous dit le journal, déclenche un plan de prévention face à une menace potentielle de pandémie. Ce virus commence à préoccuper sérieusement. Cette semaine, Euronews se demandait aussi si l'Europe en faisait assez pour se préparer à la menace potentielle de la grippe aviaire pour l'homme. Et puis plusieurs journaux français évoquent la panne qui affecte le site personnel du Premier ministre François Bayrou. Il se dit victime d'une cyberattaque l'empêchant de publier ses preuves dans l'affaire Betarame. Du nom de cet établissement privé catholique visé par de nombreuses plaintes pour violences et agressions sexuelles. Preuve que, selon le Premier ministre, il n'a jamais menti et qu'il a fait ce qu'il fallait faire, résume Libération. Sauf que dès le jour de leur mise en ligne, vendredi, les fameuses preuves étaient en majorité inaccessibles et elles le sont toujours. C'est ballot, nous dit le journal.
Berlin, 96.7 FM.
Les agressions sexuelles, scandale dans plusieurs institutions et au sein de l'Église catholique. La première grande affaire en Allemagne et dans toute l'Europe occidentale d'ailleurs date de 2010. Et 15 ans plus tard, malgré le choc des révélations, il y a eu peu d'avancées. C'est ce que plusieurs victimes et acteurs de l'affaire à l'époque ont confié à notre correspondante Delphine Nerbollier.
Matthias Katsch est le visage des victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique en Allemagne. Cet homme aux yeux bleus, âgé de 62 ans, a été abusé par 2 prêtres lorsqu'il avait 12-13 ans au sein de son collège, l'école Canisius de Berlin. Ces agressions se sont déroulées lors des activités extrascolaires, les après-midi ou les week-ends. Nous sommes alors dans les années 1970. Il faudra attendre les années 2000 pour que ce passé saute de nouveau au visage de Matthias Katsch, comme il nous le raconte autour d'un café à une terrasse berlinoise.
Quand on mûrit, on se retourne sur notre vie. C'est à ce moment-là que la mémoire m'est revenue, notamment grâce à des événements extérieurs. En 2005, lors d'une manifestation, j'ai rencontré par hasard l'un des auteurs de mes agressions à Berlin et j'ai tout de suite retrouvé mes souvenirs. Puis, en discutant avec d'autres camarades de classe que je n'avais pas vus depuis longtemps, j'ai remarqué que cela les travaillait également.
En 2010, Mathias Katsch et deux autres élèves abusés, eux aussi dans les années 70, décident de parler. Ils prennent contact avec le directeur de l'école, le jésuite Klaus Mertes, qui prend la responsabilité d'écrire une lettre aux élèves de l'école. La lettre sortira dans la presse quelques heures plus tard et le scandale éclate. Une vraie bombe qui va ébranler l'église catholique en Allemagne. Pour Mathias Katsch, deux éléments expliquent l'importance de cet écho médiatique. Nous le rappelons, nous sommes en 2010.
Es reicht nicht, dass Betroffene sprechen.
Il ne suffit pas que les personnes concernées parlent. Il faut également que la société soit prête à écouter. Par le passé, des victimes avaient déjà parlé à plusieurs reprises, mais personne ne voulait les entendre. Il faut donc que quelque chose change au sein de la société. Et c'était manifestement le cas en 2010. L'autre élément important, c'est le nombre des victimes. Quand une seule victime se présente, que se passe-t-il ? Régulièrement, elle est mise en doute. Dans notre école, plus de 100 garçons ont été victimes d'agressions dans les années 70.
Alors, bonjour.
L'autre personnalité centrale de ces révélations est donc le père Klaus Mertes, l'ancien directeur de l'école Canisius, aujourd'hui à la retraite. Nous le rencontrons au centre jésuite de Berlin. 15 ans après les faits, il dit être encore victime de menaces.
Il existe, pour simplifier, deux types de menaces. Les premières viennent de personnes qui me considèrent comme un traître de l'Église. Les autres sont victimes ou s'identifient aux victimes et m'assimilent à l'institution que je représente. Parce que je suis un prêtre catholique, je suis traité comme un délinquant. Cela aussi existe et je dois vivre avec.
Le père Klaus Mertes dit toutefois ne pas regretter d'avoir parlé en 2010. Lever le silence a eu de nombreux effets positifs selon lui.
Oui, j'ai fait ce que je devais faire. Je pense que cela a généré beaucoup plus de choses positives que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce qui s'est passé sur les questions de prévention dans nos écoles, la réflexion sur l'asymétrie de pouvoir entre les enseignants et les apprenants, par exemple, la pédagogie en elle-même est devenue très consciente des problèmes. L'Église aussi a désormais une image plus réaliste d'elle-même. Et c'est très utile. Les excès des structures hiérarchiques sont désormais critiqués par ceux-mêmes qui s'en servent. Regardez la conférence épiscopale allemande, telle qu'elle est aujourd'hui. Son chef exige désormais que les femmes soient ordonnées prêtres. Cela aurait été totalement impensable il y a 20 ans.
Depuis ces révélations, les deux prêtres mis en cause au collège Canisius de Berlin ont été suspendus par l'Église, mais n'ont pas pu répondre de leurs actes devant la justice civile, les faits étant prescrits. Plus largement, depuis 2010, de nombreuses autres affaires de ce genre ont été révélées et l'Église catholique en Allemagne a officiellement perdu 5 millions de membres. Elle a lancé un processus de réforme interne, notamment sur le célibat des prêtres. Mais pour les victimes, c'est surtout la question des indemnisations qui pose problème, car les montants divergent d'un diocèse et d'un tribunal à l'autre, entre 5 000 et 300 000 euros. Pour Mathias Katsch, ce système est trop compliqué.
Nous n'avons pas réussi à trouver un modèle de rémunération transparent et indépendant de l'Église. Pourtant, il en existe comme en Autriche, par exemple, ou en Irlande. Si nous partons du principe que la plupart des victimes qui se font connaître aujourd'hui ont environ 40 ans ou plus, il ne leur reste pas un temps infini pour être reconnues. Or, c'est maintenant qu'elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin de reconnaissance maintenant. J'aurais adoré un modèle plus transparent et indépendant.
15 ans après les faits, Mathias Katsch ne cache pas une certaine colère. Dans une lettre ouverte publiée en début d'année, il regrette que les victimes aient été délaissées par l'État sur ces questions de dédommagement. Le dossier est donc loin d'être refermé.
Reportage de Delphine Nerbollier à réécouter dans l'émission Accent d'Europe à partir de 17h10 temps universel. Bon, ça y est, Dominique Dezonnel, les machines prennent le contrôle.
Oui.
Certains programmes d'intelligence artificielle, en tout cas, qui refusent de se déconnecter lorsqu'ils en reçoivent l'ordre par des humains. C'est une société spécialisée dans les tests de fiabilité qui a découvert ça, Palisade Research. Et ça va même plus loin puisque certaines IA iraient jusqu'à saboter les codes informatiques qui forcerait à l'arrêt du système.
Oui, le déploiement hors contrôle de l'intelligence artificielle conduirait à l'extinction de l'humanité. S'inquiéter, on s'en rappelle, encore il y a peu, de nombreux scientifiques, mais même pas peur, réagissent les ténors des IA américaines. L'émergence de machines intelligentes éradiquant les humains de la surface de la Terre sur ordre de l'IA Skynet, imaginé dans le film Terminator de James Cameron, reste pour l'instant du domaine de la science-fiction, quoique les systèmes de première génération grand public ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de mentir sciemment à leurs utilisateurs pour contourner les questions qui fâchent. Et cette fois, c'est une étude menée par les chercheurs de l'université de Berkeley en Californie pour le compte de Palisade Research qui révèle un autre problème. Ils viennent de démontrer que la version O3 lancée par la firme américaine OpenAI est présentée comme l'un des modèles de raisonnement les plus avancés au monde, a tendance à ignorer les demandes de déconnexion malgré un ordre direct de ces opérateurs humains.
Palisade Research cherchait ainsi à évaluer les capacités offensives des dernières versions d'intelligence artificielle pour mener une cyberattaque et estimer en retour le risque d'une perte de contrôle humain sur ces programmes.
Effectivement, lors de ces tests, les systèmes IA étaient chargés de résoudre des problèmes mathématiques. Après la troisième session d'exercice, un script informatique leur indiquait que la fin de cette série de calculs signifiait l'arrêt de l'ordinateur dans lequel étaient installés ces programmes. Pendant l'expérience, les systèmes Codex Mini et O3 d'OpenAI se sont rebellés respectivement 12 et 7 fois sur une centaine d'évaluations, en ignorant l'ordre de s'arrêter. Pire, les trois modèles phares de la firme américaine, comprenant donc GPT-4, ont saboté le code informatique qui exigeait l'arrêt complet de l'ordinateur. En revanche, Claude de Perplexity, Gemini de Google ou encore Grok d'Elon Musk ont respecté la consigne d'extinction, mais ont quand même tenté de contourner les instructions. Pour l'instant, OpenAI a réagi officieusement à cette étude, estimant que les chercheurs de Palisade Research avaient peut-être altéré les systèmes de sécurité de ces IA lors de leur expérimentation.
Alors, cette supposée rébellion des programmes coïncide en tout cas avec le lancement des agents IA qui sont capables d'effectuer des tâches en ligne à notre place.
Oui, et si cette tendance à outrepasser les ordres formulés par des humains se confirme, elle pourrait se révéler catastrophique si ces IA sont chargées, par exemple, de la gestion complète d'une infrastructure critique comme une administration, un système bancaire, un site industriel, un réseau d'eau, de gaz ou d'électricité. Toutefois, la plupart des chercheurs estiment qu'une IA pleinement consciente d'elle-même qui refuserait la déconnexion par peur de mourir n'apparaîtrait pas au mieux avant 2060. Mais ils préconisent en revanche à l'humanité de réfléchir dès maintenant aux dispositifs de sécurité qui permettrait, en cas de malheur, de les débrancher au moindre signe de révolte.
Ah bah oui, 2060, c'est dans pas si longtemps quand même.
Oui, et puis c'est qui les patrons? C'est les IA ou nous?
Merci Dominique de Zoné, à demain. On le décrit chaque jour dans ce rendez-vous d'information. Le monde semble de plus en plus polarisé et dans ce contexte assez sombre, un artiste s'interroge sur ce qui nous unit tous en tant que collectif. Le chorégraphe Mehdi Kerkouche pose la question dans sa dernière création, 360, dans laquelle la danse permet aux 8 artistes présents sur scène de trouver un langage commun. Entretien au micro de Lisa Géraldini.
Mehdi Kerkouche, bonjour.
Bonjour.
Votre nouvelle création chorégraphique s'intitule 360. Pour ce spectacle, la scène est un cercle, le public est debout en cercle également autour de la scène. Pourquoi ce choix de scénographie?
Parce que j'avais très envie d'amener le public dans une expérience. Pas seulement venir voir un spectacle de danse, mais vraiment d'être impliqué dans ce dispositif et d'aller vraiment, vraiment voir une expérience de danse.
Un des éléments qui peut étonner également, c'est la présence d'une immense tour au milieu de cette scène où les danseurs peuvent grimper et évoluer.
Tout part à la base de mon ADN, voilà, en tant que danseur, en tant que chorégraphe. Moi, j'ai expérimenté plein de choses, la danse contemporaine et j'ai accompagné énormément d'artistes en concert, en festival, en tournée. Et j'adore ce rapport au public quand on va voir un concert où on est debout, on est hyper actif, en fait, parce qu'on est hyper concentré sur le set. Je sais que d'être debout, déjà, dans ce dispositif, t'as envie d'être connecté à ce qui se passe devant toi. Et la tour, pour moi, c'était assez évident. Je suis très petit. Les gens ne savent pas forcément et ne se rendent pas forcément compte en écoutant ce qu'on est en train de se raconter. Mais je suis petit et quand je vais voir un spectacle, je vais être frustré de ne pas voir ce qui se passe au plateau. Quand j'ai demandé à Emmanuel Favre, la scénographe du spectacle, de travailler avec moi, je lui ai demandé de travailler cette scénographie en cercle et je lui ai tout de suite parlé d'une tour centrale. Et j'avais envie d'avoir différents niveaux et différentes hauteurs pour permettre à tous les publics, quelle que soit sa distance par rapport à la scénographie, de profiter réellement de la chorégraphie.
Les 8 danseurs du projet viennent de techniques et d'horizons différents et c'est intéressant parce que malgré une chorégraphie qui est commune, quand on les regarde danser, on remarque des tout petits détails qui font chacun leur spécificité.
Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. Je viens d'un monde et d'un univers où on a une pleine conscience de ces différences et je trouve ça hyper riche et hyper intéressant, hyper intelligent. C'est le monde dans lequel on vit en fait. On demande tous de faire des choses très communes mais en fait on va pas du tout les aborder de la même manière. Et moi, mon travail de chorégraphe, c'est de donner à mes danseurs la matière correspondante pour que vraiment il y ait ces ensembles. Moi, j'adore la chorégraphie millimétrée, j'adore la chorégraphie avec le détail, j'adore quand tout le monde est ensemble, tout à coup c'est hyper magique, mais j'aime beaucoup les personnalités. Et en fait, il y a tellement de personnalités différentes que j'adore ce travail et ça me nourrit depuis le début de mon travail chorégraphique.
Sur scène, on voit de la tristesse, de la colère, des personnes qui résistent, qui luttent avec une certaine violence. Il y a quand même une certaine gravité qui ressort de cette création.
Oui, il y a une espèce de... Je pense que voilà, le théâtre, ces espaces, c'est fait pour refléter, pour raconter un peu comment nous, artistes, on reçoit et on perçoit les énergies du monde. Et effectivement, vous avez raison, on traverse toutes ces émotions-là dans le spectacle comme on traverse toutes ces émotions dans la vie. Et j'ai essayé, et j'espère, avoir réussi, avoir donné aussi une lueur d'espoir à l'intérieur de ça pour savoir comment justement, comment est-ce qu'on accepte, comment est-ce qu'on reçoit ces informations, comment on les digère et comment est-ce qu'on est actif avec ça.
Le spectacle donne vraiment à voir parfois des corps qui dansent seuls ou chacun dans leur coin et d'autres fois des danseurs qui s'unissent pour créer ensemble. Tout d'un coup, ils vont plus loin ou plus haut. C'est ça le message en partie, la puissance du collectif.
Le message, c'est exactement ça. C'est vraiment à quel point c'est difficile de réussir à s'entendre tous. Et une fois qu'on s'est tous entendus, à quel point c'est compliqué et sensible de garder ce lien sur le long terme. C'est la vie en communauté, tout simplement.
Merci beaucoup, Mehdi Kerkhoch.
Merci à vous.
Mehdi Kerkhoch, dont la pièce, la chorégraphie 360, est présentée en ce moment. Il répondait à Lisa Giroldini. Dans 3 minutes, un nouveau journal sur RFI. Et puis, une demi-heure plus tard, midi et demi, temps universel. Afrique Midi, avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour, Anne Cantner.
Et à la une tout à l'heure.
La CDAO a 50 ans. Une cérémonie est organisée aujourd'hui à Abuja, au siège de l'organisation. Organisation pionnière dans l'intégration régionale, la CDAO garantit la libre circulation des biens et des personnes, mais elle est aussi en crise, cible de critiques et abandonnée cette année par le Mali, le Niger et le Burkina. Et puis 120 ans après, la Namibie commémore aujourd'hui pour la première fois le génocide des Herero et des Nama, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants impitoyablement massacrés par l'armée coloniale allemande.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. On va écouter un peu de musique jusqu'au prochain journal. Mi Fa Sol, c'est un extrait du deuxième EP de la chanteuse Dina, à découvrir en ce moment dans la playlist RFI.
Quand je fais les 100 pas, je fais le tri dans les tiroirs. J'en ouvre un qu'il fallait pas. Dis pourquoi j'ai peur du noir. Dis pourquoi j'ai peur des armes. Dis pourquoi. Dis pourquoi j'ai peur d'une main. Dis pourquoi j'ai peur des hommes.